18h. Le journal de 18h. Didier Blé.
Merci de nous retrouver. Nous sommes très heureux d'être avec vous. À présent, les titres à la une de l'actualité. 2 décembre 2023, il y aura une reprise de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guémont. Certains faits sont donc à la base de ces reprises et ces faits seront revisités par Francis Cassis en début de journal. La journée nationale du partenariat État-secteur privé 2023 se tient les 6 et 7 novembre 2023 à Cocody. Et le thème est le suivant, la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État-secteur privé ? En Guinée, évasion de Dalis Camara et certains de ses proches selon le parquet général guinéen. Il y a eu au moins 9 personnes tuées. Sur les circonstances de cette évasion et la suite du dossier, nous serons en direct avec Thierno Bar, confrère de la radio-télévision guinéenne. Et puis nous terminerons cette édition avec un dossier d'actualité, avec une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument aux 700 soldats bruns tués au front pour la France libre. C'était avec Jérôme Coissy. Bonsoir à tous et bienvenue. Le 2 décembre 2023, il y aura une reprise de l'élection municipale dans 9 communes et de l'élection régionale dans la région du Guémont, comme annoncé par la commission électorale indépendante. C'est ce que lui a ordonné le Conseil d'État, qui a annulé récemment dans ses différentes décisions le double scrutin tenu le 2 septembre dans ces localités, à cause de certains faits sur lesquels revient ici Francis Cassis.
Du 21 septembre au 10 octobre 2023, le Conseil d'État a statué en 6 séances sur 71 requêtes pour les élections municipales et 13 pour les élections régionales dans le cadre du contentieux des résultats. Au final, il a décidé que le scrutin, conformément à l'article 172 du Code électoral, soit repris dans la région du Guémont, où, soutient-il, sur la base de l'instruction et des pièces du dossier, l'élection des conseillers régionaux a été émaillée de violences massives. Qu'il est impossible, a estimé le juge des élections locales, dans ces conditions, d'établir avec certitude la liste de candidatures qui auraient été déclarées élues. Pour les municipales, le vote, a jugé le Conseil d'État, doit être aussi repris dans les 9 communes de San Pedro, Oumé, Tiassalé, Kouibli, Goïtafla, Dabakala, Kumbala, Sarala et Ferke. Par exemple, dans la commune de Ferke, la différence de 808 voix entre les chiffres de la CEI et ceux ressortis des procès-verbaux de dépouillement a nécessairement impacté les résultats proclamés le 3 septembre. Que dès lors, il y a lieu d'annuler l'élection du 2 septembre des conseillers municipaux de cette commune et de la reprendre, a tranché le Conseil d'État. C'est pourquoi, pour un sociologue enseignant chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, l'enjeu de toutes ces élections partielles le 2 décembre prochain est de prendre toutes les dispositions pour ne pas qu'il y ait répétition de ce qui a conduit à leur reprise.
Un papier de Francis Cassis. La confrérie des Dozeaux de Côte d'Ivoire à l'École des droits de l'homme, un moment à l'initiative du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Il a en effet organisé un atelier de formation des Dozeaux pour contribuer à l'appropriation des notions de base relatives aux droits de l'homme. Mata Touré.
Il s'agissait surtout d'améliorer leur compréhension sur les principes fondamentaux des droits de l'homme, particulièrement dans la protection des individus, et de créer une meilleure synergie entre Dozo, société civile, et autorités. Namizata Sangaré, la présidente du CNDH.
Aujourd'hui, le CNDH a pris l'engagement avec les présidents des différentes fédérations de les soutenir dans leur volonté de respecter les codes moraux du Dozoya, de contribuer à la prévention et à la gestion des conflits, ainsi que dans leur souhait d'améliorer la collaboration avec les autorités administratives, sécuritaires et avec les autres composantes de la société civile.
En plus de leur rôle culturel, les Dozeaux participent aux activités sécuritaires dans nos régions en marge des forces régulières, d'où l'intérêt pour eux de se familiariser avec les normes en vigueur à tout individu dans la société. Gounogon, Ténénan, Amadou et l'un d'entre eux est député de Boundiali.
Il ne faut pas se faire justice, on a l'habitude de ligoter des êtres humains comme du bétail. Cela n'est pas autorisé. Une fois qu'il y a des présomptions, il faut remettre aux forces régulières pour mener les procédures. Il ne faut pas mettre en bandoulière les armes légères.
Au cours de cette rencontre, la question de la création d'une carte commune identifiant les dozos sur l'étendue du territoire national a été réitérée afin de faciliter aux autorités une possible reconnaissance du statut dozo en Côte d'Ivoire.
Retrouvons-nous dans le Bounkani, un atelier régional de réflexion sur les économies illicites et leurs liens avec les conflits et l'insécurité. A été organisé à Bouna du 24 au 25 octobre 2023 par Global Initiative, l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale. L'objectif était de renforcer la compréhension de communautés de la région de Bounkani sur ces phénomènes, mais aussi leur résilience. Jérôme Kouassi.
Les objectifs et l'approche de ce dialogue avec Mohamedou Kan, analyste au sein de l'Observatoire des économies illicites de l'Afrique de l'Ouest de Global Initiative.
Discuter ensemble des mots qui gangrènent la société, surtout les économies illicites en lien avec les violences et les conflits. Comment contrer le discours, par exemple, des groupes extrémistes violents qui commencent à chercher à recruter au niveau local.
Quelques activités illicites pouvant financer l'extrémisme violent dans le Bounkani.
L'empaillage clandestin.
Les jeunes aujourd'hui s'adonnent à des comprimés, sont par exemple des cibles faciles.
On prend des gens à la maison, on les enlève contre rançon.
Ceux à qui profitent la criminalité environnementale et les économies illicites avec Mohamedou Kan, analyste au sein de l'Observatoire des économies illicites de l'Afrique de l'Ouest de Global Initiative.
On sait que c'est souvent des groupes bien organisés qui s'adonnent à ces activités-là, qui sortent carrément de la légalité, qui souvent érigent le parc comme lieu de refuge après avoir commis leur forfait dans la région.
Ce dialogue sur la résilience cherche à renforcer la cohésion communautaire. Afissata Ouattara, présidente des femmes de Bouna, sur les modèles captés.
Nous avons pris beaucoup d'exemples ailleurs. Nous allons les répercuter ici pour que les peuples de Bounkani vivent en paix.
Ce dialogue sur la résilience fait partie du projet Promouvoir la stabilisation par des interventions sensibles à la criminalité en Afrique de l'Ouest, financé par le ministère allemand des Affaires étrangères. Jérôme Kouassi, Bouna, Radio de la Paix.
La Journée nationale du partenariat État-secteur privé 2023 se tient les 6 et 7 novembre à Cocody. Cette 6e édition permettra d'axer la réflexion sur le thème central, la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État-secteur privé? Le panel 1 a pour thème pratique RSE en Côte d'Ivoire, quel état des lieux? Et puis le panel 2, partenariat État-secteur privé autour de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, quelle feuille de route? L'innovation majeure pour cette édition 2023, c'est la Bourse des projets, une plateforme de mise en relation entre les porteurs de projets innovants à fort impact économique, social, environnemental et les entreprises désireuses de proposer des appuis pour leur réalisation. À présent, parlant transport intérieur, le directeur du cabinet du ministre des Transports, Diomand Koné, a procédé jeudi dernier à Cocody à l'ouverture d'un atelier portant sur les VTC, véhicules de transport avec chauffeur, des assises conjointement organisées par l'autorité de régulation du transport intérieur et la direction générale des transports terrestres et de la circulation. Le compte-rendu de Jean-Claude Mabéa.
Le décret comprend 43 articles répartis en 8 chapitres. Quelques-unes des dispositions spécifiques liées à l'activité des VTC ont été présentées par Marie-Paul Cassi de l'ARTI.
Toutes les entreprises assurant un service de transport par VTC doivent être régulièrement constituées. Et ces entreprises-là doivent détenir un certain nombre de documents administratifs, doivent détenir l'autorisation de transport, la carte de transport par véhicule utilisé. Ces entreprises doivent être à jour du paiement de leurs patentes et employer des conducteurs qui respectent les conditions et notamment qui ont pu faire le certificat.
Réaction de Machel Saint-Lô, directrice générale d'une entreprise VTC en Côte d'Ivoire et au Ghana, et de Diaby Ibrahim, président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier.
Je suis très heureuse que finalement on puisse s'asseoir autour d'une table et discuter des conditions d'applicabilité de ce décret. On est très enthousiaste à voir avancer le cadre réglementaire et qu'on puisse avoir des éléments de réponse à certaines questions qui sont soulevées par ce décret.
Alors, il faut dire que cet atelier est bienvenu dans la mesure où les conclusions vont permettre à toutes les parties parties prenantes de comprendre le texte dans sa lettre et dans son esprit. Ensuite, de pouvoir l'appliquer conformément aux instructions donc, qui vont être données, suivant les résolutions qui vont sortir donc, du présent atelier.
Le développement des VTC en Côte d'Ivoire présente un défi certain, notamment en matière de concurrence, de sécurité et de régulation, a fait remarquer Kone Dioman, le directeur de cabinet du ministre des Transports.
Et puis le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, était en mission récemment dans l'ouest du pays, notamment dans le Tonkoui, pour procéder à l'installation du nouveau chef de bureau de l'agence onusienne à Mans, Stéphane Adams.
Le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, a d'entrée de jeu situé l'importance de cette mission à Mans.
Nous sommes venus pour installer la nouvelle chef du bureau de l'UNICEF à Mans, comme celui de Korogo. C'est un bureau très important parce que c'est un bureau qui couvre 9 régions et qui travaille dans presque tous les secteurs d'activité de l'UNICEF.
Zadi Massa Alice, la nouvelle chef du bureau de l'UNICEF Mans, entend jouer sa partition.
J'attends de la population ce qu'elle a toujours fait, participer de façon très active à nos activités. Que ce soit au niveau étatique, au niveau déconcentré, au niveau communautaire.
Présente à cette première séance de prise de contact, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Ebignagne Rosalie, a émis ses voeux à l'endroit de la nouvelle chef de bureau de l'UNICEF.
Nous travaillons avec les enfants et je pourrais dire que ce sont des élèves qui constituent le socle de l'éducation nationale. Et lorsque ces enfants ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes, ce sont ces enfants que nous formons qui vont devenir les cadres de demain. Donc, sa présence ici nous fait plaisir.
Pour sa part, le premier responsable de la santé et de l'hygiène publique dans la région du Tonkoui, Dr Tia Mamadou, dit ceci.
La personne qui va admettre ce bureau, nous attendons à ce que les défis qui sont au niveau du Tonkoui en matière de nutrition, en matière de santé adolescents jeunes, qu'elle puisse nous accompagner pour pouvoir adresser ces questions qui sont cruciales pour le bien-être de nos populations en matière de santé.
Rappelons que Jean-François Basse est représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire depuis juin 2023. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
International en Guinée, évasion de Dadis Camara et certains de ses proches, selon le parquet général guinéen. Il y a eu au moins 9 personnes tuées le 4 novembre dernier dans l'opération commando qui a permis la fuite pour l'instant de Claude Pivi, ancien patron de la garde présidentielle sous Moussa Dadis Camara. L'ancien chef de la DANT, Dadis Camara, lui a été repris, ainsi que 2 de ses proches quelques heures après leur évasion de la prison centrale de Conakry. Retour sur les circonstances de cette évasion et la suite du dossier avec notre confrère Tierno Younoussaba, journaliste à la radio-télévision guinéenne. Il était joint à Conakry par Jean-Claude Comé.
Les autorités sont à pied d'œuvre pour situer les responsabilités. Beaucoup d'enquêtes sont engagées, notamment par le parquet général qui a donné des instructions au procureur militaire d'entendre Dadis et compagnie pour des infractions en tout cas graves. Actuellement, beaucoup d'actions ont été entreprises, notamment la radiation des personnes qui sont suspectées d'être en tout cas proches de la situation au niveau de l'armée, au niveau de la police, de la gendarmerie, mais aussi au niveau des gardiens de prison.
Quels sont les premiers éléments d'explication de cette situation?
L'évasion, en tout cas, on dit que c'est un commando qui a fait irruption dans la matinée du samedi dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry. On rappelle même que c'est un des fils d'un des détenus, notamment qui était à l'époque le patron de la garde présidentielle qu'on appelle Claude Pivi. Donc le commando s'est redirigé par son fils qui est venu faire irruption. Je ne sais par quel miracle. En tout cas, ce qu'il faut rappeler, il y a beaucoup de barrages à l'entrée de la ville de Conakry. L'administration est fortement concentrée, notamment même la présidence. C'est un endroit très bien sécurisé. Donc finalement, les gens ont dépassé tous ces barrages. Ils sont venus dépasser même le grand portail de la maison centrale, qui sont infiltrés par quel miracle, en effet. Donc, le commando est venu les exfiltrer, mais certains parlent même d'enlèvement, parce qu'il semble que les autres n'étaient pas consentants, notamment Kéboro, Dadis aussi. En réalité, les gens disent que le fils de Pivi était venu chercher seulement son papa.
Quel est l'état d'esprit des Guinéens actuellement, puisque d'autres ont soupçonné aussi une tentative de coup d'État, hein?
Beaucoup de commentaires, mais ce qui est très évident, c'est que les gens sont rassurés puisque le calme est revenu.
Voilà, Tierno Younoussaba, notre confrère de la RTG, joint par Jean-Claude Comé. Le ministre des Transports, nous sommes en Côte d'Ivoire, Amadou Koné, a effectué hier dimanche une visite terrain des différents chantiers qui rentrent dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023 à Korogo. Après l'aéroport, pour apprécier l'état d'avancement des travaux, le ministre Amadou Koné a eu une séance de travail à la préfecture et région avec le préfet et la police nationale sur la question du plan de circulation prévu pendant la compétition. Au terme de toutes ces étapes, le ministre a affirmé que l'heure est au détail pour améliorer davantage tous les chantiers en cours. On l'écoute dans les propos recueillis par Marcel Bonny.
Nous sommes sur des détails, hein. Ce sont des choses sur lesquelles tout le monde a travaillé depuis un moment. Donc ce sont des détails que nous sommes en train de regarder. On va continuer d'affiner jusqu'à la veille du dernier match qui va se jouer ici. Parce que après chaque match, on a la chance d'avoir ici la Ligue des champions féminines qui va se passer. On va tirer des leçons aussi, parce qu'on veut vraiment être perfectionniste. On veut améliorer les choses, sinon tout a été étudié, tout a été travaillé depuis longtemps. Je suis venu regarder comment ça se fait, ce qui a été prévu, ce qui est en train de se faire. Vous voyez tous les travaux, même sur la voie de contournement qui ont commencé. Donc nous sommes venus regarder tout ça pour regarder dans le détail donc les améliorations possibles. Et donc c'est ce qui va nous permettre d'adopter quelque chose de définitif en intégrant les améliorations à ce qui a été commencé et si bien commencé par les uns et les autres.
Le ministre des Transports Amadou Koné. Terminons notre journal avec un dossier d'actualité. Une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs en l'honneur de 700 soldats bruns tombés au front pour la cause de la France libre lors de la Deuxième Guerre mondiale a été un des temps forts des activités de la 8e édition du festival Adaé-Kessié à Tabagne, dans la région du Gontougo. Les échos de cette cérémonie avec Jérôme Kouassi.
Le 13 novembre 1888, le royaume brun a signé un traité de paix avec la France. Un traité ratifié en 1889 par le roi des bruns, Sa Majesté Nana Kwadio Adjumani. Pendant la Seconde Guerre mondiale, refusant de se soumettre au régime de Pétain, le roi Kwadio Adjumani, accompagné de son fils, le prince héritier Kwame Adingra et de ses 5 chefs de province, a offert 50 kilos d'or à la France en poste dans le Gold Coast britannique, l'actuel Ghana. Le rappel historique du ministre gouverneur du district du Zanzan, Dr Touré Suleiman.
Il portait le drapeau français et a immédiatement demandé qu'on y ajoute la croix de Lorraine. Et il a fait un don de 50 kilos d'or à la France.
Les tout derniers soldats, au nombre de 700 envoyés par le roi des bruns pour combattre pour la France libre à l'appel du général de Gaulle, sont tombés au front. Un monument a été érigé en leur honneur au cœur de la ville de Bondoukou.
Ce monument, érigé en mémoire des fils du Gontougo, mort pour la France, en est le témoignage.
Le sacrifice des soldats morts pour la liberté de la France a jeté les bases des indépendances des colonies françaises d'Afrique, a rappelé le ministre gouverneur Dr Touré Suleiman.
Ils ont combattu le régime nazi et sont morts pour la liberté, l'égalité des races et des hommes et pour la justice.
La France reconnaissante a été représentée à cette cérémonie de dépôt de gerbes par le colonel Mombel Valoir, attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France.
Pour commémorer le souvenir de vos soldats qui sont tombés pour la France et pour libérer le monde, l'honneur que nous avons ici d'être présents.
Pour la recherche de la vérité historique sur les 1600 soldats bruns disparus, pour la cause de la France demeure un point de mire des activités de recherche de la Fondation Adaé-Kessié, a rappelé le commissaire général du festival, Béni Daouda Ouattara.
Nous sommes partis faire des recherches jusqu'en France et nous avons signé aujourd'hui avec les souvenirs français.
Des recherches sont en cours pour avoir les noms des illustres disparus, a rassuré Béni Daouda, le commissaire général du festival Adaé-Kessié de Tabagne.
Aujourd'hui, nous sommes en train encore de faire d'autres recherches pour pouvoir avoir le nom de tous les parents qui ont été envoyés en France combattre pour la France libre. C'est ce projet qui nous tient à cœur.
Pour rappel, le 18 novembre 2022, la coopération française avait honoré la mémoire des anciens combattants de la région du Gontougo. Jérôme Kouassi Krou, du Zanzan, Radio de la Paix.
Merci à vous, Jérôme. C'est bien sûr ce dossier d'actualité que nous refermons ce 18h. Le rappel des titres. Le 2 décembre 2023, il y aura reprise de l'élection municipale dans 9 communes, élection régionale dans le Guémont, justement, et certains faits à la base de ces reprises ont été revisités par Francis Cassis. La journée nationale du partenariat État-secteur privé 2023 se tient à Cocody les 6 et 7 novembre 2023. Le thème, c'est la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État-secteur privé ? Et puis en Guinée, évasion de Dadis Camara et certains de ses proches selon le parquet général guinéen. Il y a eu au moins 9 personnes tuées. Et bien sûr, les circonstances de cette évasion et la suite du dossier, vous avez pu entendre Thierno Bar, confrère de la radio-télévision guinéenne. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Jean-Claude Comé vous retrouve à présent pour Economia.